Bonsoir à tous. Un procès pour l'histoire, un journal pour la liberté d'expression. Charlie republie les caricatures de Mahomet à la une de son numéro de demain, jour d'ouverture du procès des attentats de janvier 2015. Tout ça pour ça, en manchette et beaucoup de commentaires. Vous entendrez Philippe Val et un survivant de l'attaque dans les locaux de l'hebdomadaire. Au sommaire également ce soir, la rentrée des classes à l'heure du masque. On sera dans la Sarthe. Jean Castex en arbitre entre les places Beauvau et Vendôme sur l'en sauvagement de la société. Trump à Kenosha, la famille de Jacob Blake n'en attend rien. Victoire d'un des favoris sur la quatrième étape du Tour de France, Primoz Roglic, Alaphilippe reste en jaune. Et au téléphone sonne Fabienne, la rentrée également.
Eh bien, venez nous le raconter, votre rentrée des classes, des deux côtés de l'estrade d'ailleurs, avec les parents aussi bien sûr, pour que tout se passe bien. Comment vous êtes-vous organisé? Est-ce que vous avez dû user de stratégies de contournement pour repérer les enfants, retenir leur nom malgré le masque, pour leur parler? Est-ce que ça a été difficile? Quels ajustements vous semblent nécessaires dès le deuxième jour? Venez nous raconter au 01 45 24 7000.
France Inter. Nous ne nous coucherons jamais, nous ne renoncerons jamais. Voilà les mots de Rhys, le patron de Charlie Hebdo, qui republie donc à la une les caricatures de Mahomet, celle-là même qui avait fait de la cible des djihadistes. Le président du Conseil français du culte musulman appelle à ignorer les dessins et à penser aux victimes du terrorisme. On est à la veille du début du procès des attentats de janvier 2015, on va y revenir. Mais d'abord avec vous, bonsoir Jacqueline Pétrose.
Bonsoir Sébastien.
Que trouve-t-on dans le journal qui sort donc demain en kiosque? Dessins, explications et puis un sondage.
Alors on trouve déjà un titre comme un constat, vous l'avez dit, tout ça pour ça, en lettres jaunes sur fond noir, et un dessin de Cabu de 2006 où le prophète se lamente, c'est dur d'être aimé par des cons. Et sur cette même une, bien sûr, les 12 caricatures. On y trouve donc un sondage de l'IFOP réalisé du 6 au 17 août où 59% des personnes interrogées donnent raison au journal d'avoir publié à l'époque les caricatures, où 69% des personnes se déclarant musulmanes considèrent qu'il s'agissait d'une provocation inutile, mais 72% de ces mêmes personnes condamnent totalement les auteurs des attentats. On y trouve le rappel de ceux qui ont tergiversés, qui n'étaient pas Charlie ou qui ont soutenu les terroristes. On y trouve les témoignages des proches des disparus. Et puis il y a les mots forts et déterminés de Rhys, constatant que la haine est toujours là, qu'elle a mué, changé d'aspect pour passer inaperçu, mais qu'elle poursuit sa croisade impitoyable. Et puis les mots de Lançon, désabusé, pour qu'il y a belle lurette que le consensus autour de Charlie a fondu. Lançon qui explique pourquoi il n'ira pas témoigner. Trop fatigué, il a maintenant besoin de fiction pour supporter la réalité. Et peut-être, pendant le temps de ce procès, lira-t-il Les Possédés de Dostoïevski.
Philippe Lançon, l'auteur du Lambeau. Merci Jacqueline Pétrose. Voilà donc ce qu'il y a dans ce numéro de Charlie qui sort demain, qui donne lieu à beaucoup de réactions évidemment. Audacieux, dit Maryse Wolinski. Gonflé, pour Patrice Lecomte. Caroline Fourest invite à partager cette une pour rendre hommage au courage de l'équipe. Et l'ancien directeur de Charlie, Philippe Val, est du même avis, joint par Victor Maté.
Si tous les journaux avaient publié ces caricatures, il n'y aurait sans doute pas eu les attentats de Charlie. Et, manque de chance, ils nous ont laissé partir en danseuse devant le peloton. Ils ont fait de nous une cible. Devant le chantage de la terreur, les gens se sont mis à genoux, pour reprendre l'expression de Rhys. Et vous voyez, Rhys, il dit, nous, on veut rester debout. Et il reste debout. Cette nouvelle publication rappelle que c'est pour ces pauvres malheureux dessins satiriques. Il y a 12 personnes qui sont mortes. Tout ça pour ça.
Janvier 2015, c'est 17 morts en 3 jours au total à Montrouge, dans l'hypercachère et donc dans les locaux de Charlie. Cabu, Sharp, Tignous, Honoré, Bernard Maris notamment, et des survivants aussi miraculeusement revenus de la fusillade des frères Kouachi, comme celui qui était le webmaster du journal à l'époque. Il s'appelle Simon Fieschi, son bureau était dans l'entrée, il est le premier sur lequel tirent les frères Kouachi. Une balle l'atteint, pronostic vital engagé, une semaine en coma artificiel. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
5 ans après, il se prépare à témoigner à partir de demain devant la cour d'assises spéciale de Paris. Et vous avez pu le rencontrer.
Simon Fieschi a aujourd'hui 36 ans, jeune papa. Il nous reçoit dans son appartement parisien. Pas celui qu'il avait avant les attentats. Il n'a jamais pu y retourner. Un autre, au rez-de-chaussée, est doté de larges portes. Parce que si Simon, aujourd'hui, et c'est un petit miracle, parvient à marcher, il n'exclut pas qu'un jour, il doive à nouveau se servir d'un fauteuil roulant. 5 ans après, les séquelles de sa blessure par balle sont encore très lourdes.
On oscille entre un sentiment de chance, voire de miracle, et un sentiment de désastre. Voilà, on est vraiment sur le fil entre le miracle et le désastre.
Entre miracle et désastre, il a donc fallu se reconstruire, réapprendre à bouger le bras, la jambe, refaire chaque geste du quotidien, et puis accepter ce corps aux capacités désormais plus limitées, adapter sa vie pour en être content, résume pudiquement Simon Fieschi.
J'ai toujours l'impression, si je regarde un plan, que ouais, ça me met 5 minutes pour aller de tel point à tel autre. Ben non, j'arrive très souvent en retard à mes rendez-vous pour ça. Parce que mon cerveau, plus de 5 ans après, n'arrive toujours pas à mesurer que je vais moins vite. Il y en a beaucoup, des choses comme ça. Je ne suis même pas sûr qu'un jour ça changera.
Alors aujourd'hui, les bons jours, Simon Fieschi renoue avec une forme de sérénité, dit-il. Une sérénité dépourvue de toute colère.
Je suis pas en colère contre les accusés du procès qui va s'ouvrir. Je pense qu'en fait, la colère n'a pas grand sens parce que c'est pas à nous de les juger. C'est à la société de le faire. Mais au fond, le mal est fait déjà. Et la colère prend une énergie qu'on n'a pas à leur donner en fait.
Son témoignage devant la cour d'assises, cette fois, est attendu à la barre la semaine prochaine.
Son témoignage et tous les autres, avec les enjeux aussi du procès, sont dans le dossier Charlie sur franceinter.fr. Merci Charlotte Piret. Avec un compte-rendu chaque soir avant 20h jusqu'au verdict le 10 novembre. On suivra ça avec vous, Charlotte, et avec Sophie Parmentier. Et puis demain à 7h50, c'est Richard Malka, l'avocat de Charlie, qui sera l'invité de Léa Salamé, toujours sur Inter.
Évidemment. On y viendra d'ailleurs, nous aussi, dans le téléphone sonne, évidemment, Sébastien. C'est un chiffre qu'on n'aurait pas imaginé en début de pandémie l'hiver dernier.
Mais c'est pourtant bien une réalité en ce 1er septembre. Seulement, un élève sur trois dans le monde va retrouver le chemin de l'école en cette rentrée. C'est l'UNESCO qui a fait les comptes. 1 milliard d'élèves sont sans classe ou encore dans l'incertitude. Une rentrée masquée dans la plupart des pays européens, après des mois d'école à la maison, mais une rentrée presque normale pour les quelques 12,5 millions d'élèves, d'après Jean Castex, qui affiche sa sérénité et qui assure que tout est prêt. Alors, comment s'est passée cette première journée? Reportage dans la Sarthe, à Saint-Vincent-du-Lorouère, on est au sud du 40 élèves de la grande section au CE1 et Sébastien Sabiron sur place.
Bonjour tout le monde! Vous êtes prêts pour la rentrée?
Oui!
Sur la porte de la classe, un écriteau indique que le port du sourire est obligatoire et les élèves s'y plient volontiers, même si le sourire de la maîtresse, lui, est masqué.
Ça fait bizarre, c'est qu'on voit pas sa bouche et des fois quand elle s'énerve, on voit pas trop si elle est contente ou pas contente. Des fois, je crois en fait qu'elle est contente, mais en fait, elle est fâchée.
Concernant les gestes barrières, quand on éternue, qu'on tousse, qu'on se mouche, on essaye de se laver les mains aussi comme on faisait avant.
Bureau espacé d'un mètre, 2 zones distinctes dans la cour de récré, idem à la cantine. Pour tous les élèves, comme Candice, les gestes barrières n'ont plus de secret.
On ne peut pas se toucher, on ne peut pas jouer à des jeux où on peut se toucher. Il faut se laver les mains, garder nos distances, c'est fastoche.
Et si le protocole sanitaire reste pesant, la directrice de l'école, Mélodie Galman, le juge plus facile à mettre en œuvre qu'au printemps dernier.
Après le confinement, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Le protocole, c'est vrai que quand on l'a eu, il y avait tout à mettre en place. Là, c'est vrai qu'on a eu un protocole qui s'est au final allégé, donc on est un peu habitué. On l'aborde cette rentrée beaucoup plus sereinement qu'au mois de mai ou au mois de juin.
Prochaine étape pour les écoliers sartois, des évaluations de niveau en CPCE1. D'ici là, le protocole sanitaire n'interdit ni de chanter, ni de rire à gorge déployée. Saint-Vincent-du-Lorouère, Sébastien Sabiron, France Inter.
À Amiens, 25 collégiens et 2 surveillants sont en quatorzaine. Ils ont été testés positifs après l'opération Collège Ouvert du week-end dernier. Plus largement, le gouvernement dit étudier un dispositif d'accompagnement des parents en cas de fermeture de classe. Le Premier ministre qui cherche aussi à stopper la polémique dans ses rangs sur l'ensauvagement de la société, comme le dit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Terme récusé ce matin par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti parce qu'il développe, selon lui, le sentiment d'insécurité. Pas de couac au gouvernement. Castex assure qu'on peut fermer le banc. Il n'empêche, bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir Sébastien.
Le voilà Jean Castex encore obligé d'arbitrer sur ce sujet.
Oui, puisqu'on en est à compter qui, au gouvernement, fait entrer ce mot dans son dictionnaire personnel. Concept lourd de référence, entré il y a longtemps maintenant dans le langage courant de Marine Le Pen. Alors pas le président, qui préfère parler de banalisation de la violence, pas le garde des Sceaux, vous l'avez dit, pour qui ce mot flatte les bas instincts. Ensauvagement rhétorique et sémantique au sein de l'exécutif et un Castex casque bleu ce midi depuis Châteauroux.
Fermez le banc, il n'y a aucune polémique. Le vrai sujet, en revanche, c'est bien celui de nous mobiliser. Il y a une montée du sentiment d'insécurité. La question n'est pas les mots qu'on emploie, mais les actions que l'on met et que l'on va mettre en place pour y faire face.
Le Premier ministre au micro d'Yannick Falt, tout de même, Jean Castex, qui avait déjà pris ses distances avec le style Darmanin, c'était mercredi dernier à ce micro.
Il faut se garder de faire du matamorisme. Il faut agir.
Matamorisme, notion zoologique. Quand un félin, par exemple, gonfle pour effrayer l'ennemi. Dupond-Moretti, animal politique en devenir. En tout cas, libre, il refuse ce clivage entre laxiste et sécuritaire. Il dit ce qu'il pense, se félicite l'un de ses conseillers. Chez Darmanin, on insiste sur deux ministres qui parlent différemment, mais agissent de concert, contre l'usage des drogues, par exemple. Mais de là à retirer l'ensauvagement de son bréviaire, c'est non, je le réitère. À 17 après-midi, le ministre de l'Intérieur, il était en visite à Choisy-le-Roi.
Et côté désordre, merci Yael Gauz, on peut aussi compter sur Christian Estrosi aujourd'hui qui appelle la droite à trouver un accord avec Emmanuel Macron pour 2022, c'est dans le Figaro. Le numéro 3 des Républicains, Aurélien Pradié, trouve ça totalement misérable. Il accuse le maire de Nice de se vendre au plus offrant, là où le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, tend la main à toutes les bonnes volontés.
Le cimentier Lafarge, sous le coup d'une enquête à Paris.
L'entreprise de travaux publics est soupçonnée de déverser des eaux usées dans la Seine, des eaux chargées de béton et de plastique au niveau d'une centrale de fabrication dans le quartier de Bercy. Le cimentier parle d'un acte de malveillance, il a porté plainte. Anne Hidalgo dénonce un scandale écologique. La maire de la capitale, qui n'a pas raté l'occasion, cette opération d'Utopia 56 ce matin sous ses fenêtres. L'association de défense des exilés est venue installer un campement de migrants sur le parvis de l'hôtel de ville. 219 personnes venues de Somalie, d'Afghanistan ou encore de Côte d'Ivoire, rapidement délogées par la police et accueillies ensuite à la mairie. La ville en profite une nouvelle fois, Rémi Brancato, pour dénoncer l'inaction de l'État.
Dans sa tente sur le parvis de l'hôtel de ville, Najat, somalienne, et ses cinq enfants sont fatigués, déplacés de parc en parc depuis des semaines.
J'ai fait ma demande d'asile il y a 5 mois. Je dors à la rue. J'étais enceinte de 5 mois. J'ai perdu mon enfant. S'il vous plaît, aidez-nous.
Madame, vous êtes combien dans la tente? Il y a des enfants ou pas, madame?
La police évacue les familles dans le calme. Parmi elles, une soixantaine d'enfants. 17 ont moins de 3 ans, comme le bébé de Souleymane.
La police est arrivée qu'elle ait quitté le lieu. Bon, nous, on ne sait pas où il faut aller. Parce qu'avec le bébé, il fait froid.
Vous avez un bébé de 2 mois?
Oui, ça fait un mois comme ça, on dort dans la rue avec le bébé.
Alors les élus de la ville de Paris surveillent les opérations et dénoncent l'évacuation sans mise à l'abri.
Le parvis, il appartient à la mairie. Nous ne demandons pas l'évacuation. D'où vous vous permettez d'évacuer?
Yann Brossa, l'adjoint au logement.
L'attitude de la préfecture de police dans cette affaire est honteuse.
La mairie a finalement ouvert des salles à l'hôtel de ville pour la journée. Action réussie donc pour l'association Utopia 56 et son cofondateur Yann Manzi qui voulait visibiliser la situation des migrants.
L'année dernière, en 2019, 1400 familles prises en charge par l'association Utopia. Cette année, on a 800 familles depuis le début de l'année. Quand est-ce que l'État va s'occuper de ces populations et laisser un demandeur d'asile sur deux à la rue? Mais quand est-ce que ça s'arrête?
Ce soir, selon l'association, quasiment toutes les personnes seront hébergées dans des chambres d'hôtel.
Reportage Rémi Brancato.
Donald Trump attendu à Kenosha dans le Wisconsin.
Là où Jacob Blake a été victime de 7 coups de feu dans le dos par un policier blanc il y a 10 jours. Il est depuis paralysé et des membres inférieurs. Il est toujours à l'hôpital. La ville a connu depuis plusieurs nuits d'émeutes, notamment entre les militants du mouvement Black Lives Matter et des suprémacistes blancs. 2 personnes ont été tuées. Voilà le contexte de cette visite du président américain dénoncée par son rival dans la course à la Maison-Blanche, Joe Biden, et par le gouverneur et le maire démocrate. Alors qu'attend de cette visite l'oncle de Jacob Blake, Justin, venu de Chicago pour réclamer justice? Omar Waman lui a posé la question.
Pas grand chose. Il n'a rien fait si ce n'est attiser les tensions raciales et semer le désespoir parmi toutes les minorités de ce pays. On suppose que ses partisans, les suprémacistes blancs, seront présents et on ne veut pas faire partie de tout ça. Donc on va retourner là où Jacob a été blessé. On va participer aux opérations de nettoyage, aller à la rencontre de la population dans le quartier pour passer une journée constructive. Jacob va de mieux en mieux, il est toujours paralysé, il a été grièvement blessé, mais il est là, il est toujours vivant, et nous sommes reconnaissants pour ça. Nous voulons que justice soit rendue, que ce policier soit inculpé pour tentative de meurtre au premier degré. C'est la justice, nous sommes en 2020. C'est fini le temps des pendaisons publiques, des lynchages et des assassinats des descendants d'Africains. On veut qu'il soit condamné et envoyé en prison.
Et à Los Angeles, la nuit dernière, un trentenaire noir a été tué, là encore, par la police, alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle. Les forces de l'ordre assurent qu'il tenait un pistolet semi-automatique caché dans des vêtements. Une centaine de personnes se sont rassemblées peu de temps après sur les lieux. Emmanuel Macron, lui, joue les médiateurs à Beyrouth, au lendemain de la nomination du nouveau Premier ministre. Deuxième visite depuis l'explosion sur le port il y a un mois. Et au menu, bonsoir Christian Chéneau. Christian, est-ce que vous êtes avec nous depuis Beyrouth?
Oui, je vous entends.
Vous êtes à la... Bonsoir Christian, vous êtes à la résidence de l'ambassadeur de France, la résidence des Pins, au menu de, disais-je, des rendez-vous d'Emmanuel Macron, avec tous les ténors de la classe politique libanaise.
Oui Sébastien, il réunit en ce moment même Saad Hariri, Walid Jumblatt, Samir Jaja ou encore Mohamed Raad, le chef du bloc parlementaire du Hezbollah. Emmanuel Macron veut maintenir la pression sur les chefs politiques libanais. Il espère les convaincre de former rapidement un gouvernement de mission, c'est-à-dire un cabinet capable de lancer très vite des réformes. Emmanuel Macron ne veut pas de faunés dans la nouvelle équipe gouvernementale, c'est-à-dire des ministres technocrates qui travaillent en fait en coulisses pour leur parrain politique et non pas pour leur pour le bien du pays. Sinon, répète le président français, eh bien les 11 milliards de dollars de dons et de prêts de la conférence Cèdre organisée à Paris en 2018 ne seront pas décaissés. Il vient leur rappeler la feuille de route qui doit être mise en œuvre sur des dossiers très sensibles comme l'audit de la Banque centrale du Liban, la réforme du statut du port de Beyrouth ou encore la restructuration du secteur de l'électricité. Et pour bien se faire comprendre, Emmanuel Macron a commencé à agiter le bâton, c'est-à-dire la menace de sanctions ciblées contre certains caciques politiques libanais si d'ici 3 mois, rien ne se passe.
Christian Chélot en direct de la résidence des Pins à Beyrouth avec Fabien Gosset, la résidence de l'ambassadeur de France. Emmanuel Macron a prévu de revenir au Liban en décembre. La victoire au sommet et au sprint pour l'un des favoris du Tour de France aujourd'hui sur la 4e étape à Orsières-Merlette, le Slovène Primoz Roglic. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir Sébastien.
Julian Alaphilippe sera encore en jaune demain.
Eh oui, il a réussi à conserver son maillot jaune, Julian Alaphilippe. Il affichait d'ailleurs un large sourire sur la ligne d'arrivée. Autre homme heureux ce soir, c'est Primoz Roglic, hein, parce qu'il est allé tout simplement chercher la victoire d'étape. Et surtout, lui, le grand favori du Tour annoncé, a déjà comme prévu marqué les esprits et le mental de ses rivaux en plaçant la petite attaque qui va bien à 150 mètres de la ligne. Roglic, forcément donc satisfait et bien de retour après sa chute sur le Dauphiné. Le message est passé.
Oui, c'était une journée plutôt rapide et plutôt dure, mais les gars ont fait du très bon boulot. J'étais tout le temps en bonne position et j'ai donc pu faire un bon sprint, donc très heureux.
Heureux aussi, je vous l'ai dit, vous l'avez dit, Julian Alaphilippe, 5e de l'étape, sans paniquer, et qui passera demain un 17e jour en jaune.
Un autre.
J'étais au Rupteur, donc pas forcément de déception, non. Le train de la Jumbo Visma était vraiment difficile à suivre et aucune déception à avoir. Content d'être en jaune demain.
Et Julian Alaphilippe, hein, déjà Sébastien, dans les 10 Français de l'histoire à avoir le plus porté le maillot jaune.
Et un autre Français, Fanny, a aussi impressionné ce soir.
Oui, vraiment, il n'est pas encore très connu du grand public, mais attention, vous allez apprendre à le découvrir, c'est sûr, au cours de ces 3 semaines. C'est Guillaume Martin, 3e de l'étape, le seul à avoir essayé de s'opposer à la suprématie de Roglic et des Jumbo-Visma. Écoutez-le.
C'est sûr que c'est pas passé loin, mais j'aurais eu des regrets de ne pas tenter d'attaquer aux 500 mètres. Après ce confinement, j'ai passé un vrai cap et je le sens. Et c'en est à nouveau la preuve sur le Tour, parce que cocher en tout cas la case d'être au rendez-vous sur la première étape de montagne du Tour, ça présage pas forcément de la suite, mais c'est quand même très encourageant.
Guillaume Martin, 5e du général ce soir à 13 secondes à la Philippe. Tout va bien aussi, rassurez-vous, pour Thibaut Pinot et Romain Bardet. Ils ne sont pas passés à l'offensive aujourd'hui, mais ils sont arrivés avec les meilleurs.
Le bémol, Fanny, c'est qu'il n'y avait pas grand monde ou presque pour assister au spectacle.
Oui, aujourd'hui, il y avait des spectateurs fous de joie, déguisés, c'est vrai, dans les villages traversés, mais quasiment personne dans la montée finale vers Orsières. Jacques, l'un des rares fans présents, on était presque désolé pour les coureurs.
On a l'impression d'être sur une petite course, en fait. Quand on va le voir sur les petites classiques en début de saison, il y a pareil, c'est le même monde qu'il y a. Autour de France, d'habitude, c'est plus le bordel quand même.
Et on a hâte de voir ce que ça va donner hein, dans les habituels chauds bouillants cols des Pyrénées ce week-end.
Et en attendant, demain, 5e étape, une étape pour sprinter. Merci Fanny Lechevestrier. En direct d'Orsières-Merlette avec Hélène Langlois. Demain, 183 km entre Gap et Privas. On termine avec le virus qui oblige la Ligue de rugby à reporter le match d'ouverture de la saison de Top 14. Stade français Bordeaux-Bègles, c'était prévu vendredi. Bonsoir Alexandre Berthaud.
Bonsoir Sébastien.
Trop de cas dans l'effectif parisien qui oblige la Ligue à saisir la commission de discipline.
Au Stade français, plus de 30 personnes, joueurs et staff confondus, 30
30 personnes à un moment donné testées positives au Covid-19. Aujourd'hui, plus personne n'est contaminé, mais plusieurs joueurs en fait souffrent de lésions pulmonaires ou bien ne sont pas prêts physiquement, selon le club, à reprendre le sport de haut niveau, donc le championnat. La Ligue va alors chercher à savoir si le Stade français a suivi à la lettre les protocoles qu'elle a mis en place cet été. Selon le club, ces contaminations, elles ont eu lieu pendant un stage de préparation début août. Thomas Lombard, c'est le directeur général du Stade français.
Il n'y a strictement rien à cacher. On a une contamination qui s'est opérée pendant le stage de Nice. Évidemment, quand vous avez 40 ou 50 joueurs qui sont dans une même pièce parce qu'on réfléchit ensemble à une réunion, ben oui, c'est sûr que c'est pas les conditions les plus idéales.
Thomas Lombard qui explique que les tests PCR réalisés la veille du départ étaient négatifs, mais que plusieurs joueurs ont été contaminés juste avant de partir. Une version qui devra donc être confirmée par la Ligue, par cette enquête. La LNR, elle assure qu'elle ne veut ni stigmatiser le Stade français, ni l'avantager sportivement. Elle souhaite plutôt envoyer un message aux autres clubs. Soyez vigilants, car nous serons intransigeants.
Et la saison devrait donc commencer par Montpellier-Pau vendredi soir. Merci Alexandre Berthaud. Et puis je ne sais pas si vous avez vu ça, mais en Équateur, il y a un footballeur qui a été condamné hier à 1 200 $ d'amende. Il a embrassé le ballon pendant un match. Cinq autres joueurs du championnat écope, eux aussi, de la même amende parce qu'ils ont échangé leur maillot. Effectivement, tout ça, ce n'est pas très Covid compatible.
Non, c'est vrai. Allez savoir si on peut...
Je garde ma chemise.
Oui, s'il vous plaît. Si on peut donner le Covid à un ballon. Allez, Sébastien Paour, merci beaucoup. À demain. On reste ensemble, évidemment, pour le téléphone sonne, parents, élèves, professeurs, professeurs des écoles. Venez nous raconter votre rentrée, votre premier jour masqué. Comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce qu'il faut d'urgence améliorer? Est-ce que finalement les choses se sont déroulées plus simplement que prévu parfois? Au 01 45 24 7000, comme d'habitude. Jean-Pierre Hameau est là aussi, comme d'habitude.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R, la mondiale. Avec Via Santé, plus que jamais, devenez acteur de votre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va?
Et Jean-Pierre, au programme de demain, pas mal de grisailles dans le nord-est du pays.
Oui, effectivement Fabienne, les brouillards ou les nuages bas seront fréquents demain au lever du jour, en particulier vers la vallée du Rhin et de la plaine d'Alsace et aussi le long de la Saône, mais aussi du côté de la Normandie. Et puis partout ailleurs, votre matinée sera bien ensoleillée. L'après-midi, l'ensoleillement restera généreux de la Bretagne à la région Poitou-Charentes, de la Nouvelle-Aquitaine au Languedoc-Roussillon, en passant par Midi-Pyrénées. Dans les autres régions, les cumulus de beau temps vont s'inviter dans le ciel. Des cumulus plus développés lâcheront quelques averses sur les massifs de l'Est. Le Mistral restera soutenu avec des rafales voisines de 50 km par heure. Côté température, les minimales seront fraîches au lever du jour. Les maximales afficheront une petite hausse et seront comprises entre 21 et 28 degrés du nord au sud. On attend 21 degrés à Lille, Nancy et Strasbourg, 22 à Dijon, comptez 23 dans la capitale, 24 à Lyon, 25 à Toulouse, 26 à Bordeaux et Bastia. Et puis on ira jusqu'à 28 degrés à Marseille et Nîmes.
Jean-Pierre Hameau de Météo France. Merci beaucoup Jean-Pierre.